Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si je veux vous donner des explications claires sur la Sainte Eucharistie qui vous permettent de bien vous y retrouver dans les richesses de ce très grand sacrement, il faut que, comme saint Thomas d'Aquin, je commence en vous donnant une distinction qui est absolument primordiale, à savoir distinguer ce qui est purement signe, ce qu'on appelle le sacrement tout seul. Vous vous rappelez que le sacrement est un signe. Donc le sacrement tout seul, c'est-à-dire uniquement le signe. Le deuxième élément, ce qui est à la fois signe et sacrement, vous vous rappelez que nous en avons déjà parlé lorsque nous avons étudié les sacrements en général. Et nous avons dit à propos du baptême, de la confirmation, que le caractère était ce deuxième élément. Et à l'époque, je vous ai dit, mais lorsque nous arriverons à l'Eucharistie, vous verrez, cette distinction aura encore plus d'importance, et en plus elle sera beaucoup plus claire à comprendre. Donc après le premier élément qui est le sacrement tout seul, c'est-à-dire le signe tout seul, il y a un deuxième élément qui est à la fois signe et réalité. Et un troisième élément qui est celui désigné par le deuxième et qui est la réalité toute seule. En latin, saint Thomas appelle ça sacramentum tantum, le sacrement tout seul, le signe. Res et sacramentum, signe et chose, réalité. Et res tantum, réalité toute seule. Ce n'est pas la peine que vous reteniez les termes latins, mais comme vous pouvez peut-être les rencontrer ici ou là, c'est pour cela que je vous les donne. Dans l'Eucharistie, ces trois éléments sont très faciles à distinguer. Le sacrement tout seul, c'est-à-dire le pur signe, ce sont les espèces eucharistiques. Les espèces eucharistiques, c'est-à-dire les apparences du pain et du vin, c'est la même chose, espèce ou apparence. L'apparence du pain nous désigne le corps. L'apparence du vin nous désigne le sang. Et le pain et le vin consacrés séparément nous désignent la séparation du corps et du sang de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais je ne vois pas le corps. Attention, les espèces le désignent parce que les paroles, justement, vous précisent le sens. Dans la Sainte Eucharistie, on vous montre pas simplement l'apparence du pain, on vous dit « ceci est mon corps » en vous désignant ce qui était du pain qui ne l'est plus. Puis le prêtre dit « ceci est mon sang » en vous désignant ce qui était du vin qui ne l'est plus. Et dès que vous avez vu les apparences du pain et les apparences du vin séparées, vous avez entendu la consécration du pain et la consécration du vin séparées, vous comprenez que cela désigne une troisième réalité, à savoir le corps et le sang de Jésus-Christ séparés sur la croix. C'est un simple signe qui vous montre cette réalité. Cette deuxième réalité, donc, qui est montrée par le simple signe, c'est justement le corps et le sang de Jésus-Christ immolé sur la croix, qui est encore un signe. Je vous l'ai dit lorsque nous avons étudié Jésus-Christ, l'incarnation. Saint Thomas nous enseigne que la sainte humanité de Jésus-Christ est un instrument de la divinité. Et par conséquent, il est tout à fait normal que nous disions que le corps et le sang de notre Seigneur sur la croix sont déjà une réalité, ça c'est pas difficile à prouver, mais en même temps un signe, parce qu'il mène plus loin. le sang. Le sang qui a coulé sur la croix. La croix elle-même. La mort du Christ volontairement acceptée sont autant de réalités qui sont également des signes et qui désignent l'offrande de Jésus-Christ, la réparation du péché, l'amour du Christ pour Dieu, son amour pour les hommes, et beaucoup de richesses encore. Et il y a dans le sacrement un troisième élément, à savoir la réalité qui est le but, qui a été signifié par le deuxième élément. Alors là, on est dans la réalité pure, c'est-à-dire que le Christ sur la croix nous montre une réalité pure, et il va nous la communiquer. Parce que le sacrement communique, le signe désigne, et à travers la res et sacramentum, c'est-à-dire à travers le deuxième élément, chose et signe, il communique le troisième élément. Et ce qu'il nous communique, c'est ce qu'il désigne sur la croix, l'union au Père, l'union à Dieu, c'est la même chose, la grâce, la charité dans l'Église, la charité entre les chrétiens avec Dieu, la gloire, la contemplation éternelle du ciel, toutes choses que nous verrons plus en détail dans un autre sermon. Il faut que je vous donne un quatrième élément, qui n'est pas un élément du sacrement, mais que souvent on mélange avec les autres éléments, à savoir le rite ou les prières de la messe. Pour beaucoup de gens, les prières de la messe, c'est la messe. Mais s'ils réfléchissaient un peu, ils verraient bien que, par exemple, les prières du baptême ne sont pas le baptême. Le baptême, c'est l'ablution faite avec l'eau sur le front de l'enfant. Les prières du baptême viennent préparer l'adulte quand il s'agit d'un baptême d'adulte, expliquer ce qui se passe, nourrir la foi, nourrir l'espérance, la charité, faire comprendre, vous voyez, préparer les âmes. Il y a deux significations à ces prières. Deux objets, deux buts. Le premier, de préparer nos âmes, de les disposer. Et le deuxième, d'expliquer ce qui se passe, d'en donner la signification. C'est la même chose dans la messe. C'est une erreur de dire la messe en parlant des prières. La messe, c'est la consécration. C'est la consécration qui réalise le sacrement. Ce sacrement qui s'appelle la messe est réalisé à la consécration. Et on devrait parler, pour tout le reste, des prières de la messe. Ces prières, que sont-elles? Elles ont deux objets, comme dans le baptême, et comme dans tous les sacrements. Elles ont deux objets. Tout d'abord, disposer nos âmes. C'est ce qui se passe dans la première partie de la messe, qu'on appelle encore d'ailleurs la messe des catéchumènes, parce que justement, elle est la partie qui est proposée à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui vont le devenir. On les prépare à leur première communion, qui aura lieu en même temps que le baptême. La deuxième fonction des prières, surtout dans la deuxième partie de la messe, dans l'offertoire et dans le canon, c'est de nous dire ce qui se passe. L'offertoire à la messe, lorsque nous offrons par exemple cette offrande sans tache, il est évident qu'au moment où le prêtre à l'offertoire offre l'hostie qui n'est encore que du pain, et qu'il dit « je vous offre cette offrande sans tache, offerte pour les péchés des hommes », il explique ce qui va se passer au moment de la consécration. Ces prières ont été, vous avez deux parties dans les prières de la messe, vous avez l'ordinaire et puis vous avez le propre. Le propre a été composé par l'Église sous l'inspiration du Saint-Esprit, et l'Église sait choisir des hommes soumis à l'inspiration du Saint-Esprit pour composer ses prières, et puis elle respecte la tradition, ce qui est pour elle une grande garantie. Ces prières du propre ont été composées par l'Église pour nous faire acquérir la grâce propre à chaque période liturgique, c'est-à-dire la grâce propre à chaque mystère, C'est-à-dire pour préciser encore ce que le Christ veut nous donner et nous permettre de bien le recevoir. Il est évident que à Noël, on ne demande pas la même grâce que pendant le carême, et pendant le carême, on ne demande pas la même grâce qu'à Pâques. À Pâques, on demande une grâce de vie spirituelle avec le Christ, encore plus à la Pentecôte. Pendant le carême, on demande une grâce de pénitence. Et puis, à Noël, on demande une grâce de foi, une grâce de joie également. Alors, ces prières sont importantes, hein. Et il est très grave qu'à la Nouvelle Messe, ce qu'on appelle la Nouvelle Messe, c'est-à-dire la Messe de Paul VI, il est très grave que les prières aient tout déformé, parce que du coup, on ne prépare plus les âmes, même on les tord. On fausse les dispositions. Et on ne décrit plus ce qui se passe, on fausse la description de ce qui se passe. On entre dans une équivoque qui finit très facilement en hérésie ou en erreur, en péché. Seulement, comme Mgr Lefebvre a particulièrement défendu la belle doctrine exprimée dans les rites de la messe, dans les prières de la messe, alors les chrétiens, surtout les traditionalistes, ont fini par croire que ces prières, c'était cela le sacrement, et quand on avait les prières, on avait tout. Alors du coup, on a une confusion, et une confusion qui va être très grave. Parce que ce que je viens de vous dire sur le sacrement seul, sur l'arrêt, c'est le sacramentum, c'est-à-dire la chose est sacre et signe, et sur la chose seule, cette distinction que je viens de vous faire. Un commentateur de saint Thomas dit que cette division en trois parties, cette division du sacrement, est essentielle pour comprendre l'Eucharistie, et d'une grande importance pour écarter d'innombrables équivoques. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce sermon, par quel bout allais-je le prendre ? Est-ce que j'allais, comme le catéchisme, commencer en vous parlant de la présence réelle, avec cet inconvénient que on ne voit pas la fin, on ne voit pas l'âme de la chose. On la découvre petit à petit, mais on ne voit pas immédiatement le but. Allais-je commencer par le but ? Je l'ai fait un petit peu dans le sermon de dimanche dernier. Le but, l'union à Dieu, je vous en ai parlé depuis le début de l'union à Dieu, je vous parle presque que de ça. Seulement voilà, je risquais de me répéter, et puis du coup, on comprenait peut-être pas très bien comment le sacrement était un sacrement, comment l'Eucharistie est un sacrement. Et une fois de plus, saint Thomas nous apporte la solution à la difficulté. Il fait la distinction que je viens de vous dire, et alors là, tout devient clair. Parce que le signe est réalité, c'est-à-dire le Christ sur la croix éclaire la signification des espèces eucharistiques. Les espèces eucharistiques nous montrent le Christ sur la croix, et après ça, nous nous rendons bien compte qu'il s'agit de nous unir, d'entrer dans les vues de Dieu, et que nous passons par les espèces pour arriver au Christ et par le Christ pour arriver à Dieu. Et ce commentateur dit, dans toute la théologie, il n'y a guère de distinction qui soit plus éclairante et qui soit même plus proche de la réalité, malgré son apparente subtilité. Vous voyez, on se dit, mais pourquoi chercher cela ? Et c'est une distinction qui nous éclaire beaucoup. Notamment, cette distinction est absolument indispensable pour comprendre ce qu'est la communion sacramentelle et la communion spirituelle. Pour comprendre que le but de la communion sacramentelle, c'est la communion spirituelle. Que recevoir le corps du Christ sans aller jusqu'à une union spirituelle, c'est manger notre propre condamnation. Et que la communion spirituelle peut, dans certains cas, je vous expliquerai quand et comment et pourquoi, et de quelle manière, la communion spirituelle peut s'opérer sans la communion sacramentelle. Sinon, on est désarçonné. J'ai pas la communion sacramentelle, que se passe-t-il ? Ou bien alors sinon, on peut favoriser une réelle paresse spirituelle, du moment que j'ai la communion, tout va bien. Alors il faut enfin ajouter une réalité, enfin un aspect de ce sacrement qui vient en apparence compliquer les choses, mais je vais vous montrer que ces choses compliquées sont en réalité très simples. Très très simples. Il faut ajouter que ce sacrement est reçu sous forme de nourriture. Les signes, c'est-à-dire les apparences du pain et du vin, sont une nourriture. Ça, c'est pas difficile à le comprendre. Mais le corps de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, sont également une nourriture, puisque notre Seigneur dit à ses apôtres, « Prenez et mangez mon corps, prenez et buvez mon sang. » Il ne dit pas « Prenez ces apparences de pain qui contiennent mon corps, buvez ce qu'il y a dans le calice et vous recevrez mon corps, ou mon sang, pardon. » Il dit « Mangez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Et dans l'annonce de la Sainte Eucharistie qu'il avait fait, dans ce discours qui lui a valu tant de défections, qui était la cause de tant de défections, il l'avait annoncé, « Celui qui mange mon corps vivra éternellement. » Alors, certains disciples ont dit « Mais c'est pas possible. » Et donc, nous voyons bien que les espèces sont une nourriture, la res et sacramentum, c'est-à-dire le corps, le sang de Jésus-Christ en personne, sont une nourriture, et nous allons voir également que l'union à Dieu dans la charité, dans l'Église, et encore plus dans le ciel, sont une nourriture, puisque quand il parle du ciel, notre Seigneur parle la plupart du temps du banquet céleste. Donc cet aspect de nourriture mérite également une explication. Une explication qui va être très riche. Mais si on ne veut pas tout confondre, il faut évidemment aller dans l'ordre. Sinon, on fait un mélange invraisemblable qui est pieux, mais qui, du coup, n'est plus à l'abri des erreurs, qui n'est plus à l'abri de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit que cette apparente complexité, en réalité, est très simple. Elle est ce qui permet de saisir et d'entrer sans difficulté dans une grande richesse, parce que justement, le Christ a choisi des signes simples et des signes riches. Alors si nous voulons les étudier, et il faut les étudier, ne serait-ce qu'à cause des erreurs, puis parce qu'on ne peut pas se contenter de la foi du charbonnier. Lorsque nous les étudions, il faut mettre beaucoup d'ordre, parce que nous sommes arrivés au sommet d'une réalité qui est à la fois tangible et divine, et c'est évidemment... Il faut plus d'ordre pour étudier cela que pour étudier des choses beaucoup plus simples. Mais en même temps, tous ceux qui ont une foi simple, je ne parle pas des simples gens, je parle même des savants, mais tous ceux qui ont une foi simple vont entrer très facilement dans ce mystère. Il suffit qu'ils sachent, et tous les catéchismes le leur disent, que l'Eucharistie est un sacrement qui est un sacrifice, que la messe reproduit le sacrifice du calvaire sur l'autel, et il suffit qu'elle sache cela, ils se mettent au pied de la croix, et en se mettant au pied de la croix, tout naturellement, ils s'en nourrissent, sans réfléchir à la notion de nourriture. Cette nourriture leur est donnée sans qu'ils pensent que c'est une nourriture. Ils entrent dans les vues de Dieu, vous voyez, ils s'unissent à notre Seigneur. Ils s'unissent avec une grande intimité à Jésus et à Jésus crucifié, une telle intimité qu'ils reçoivent toutes les richesses que Jésus a gagnées pour eux durant sa vie, toutes les richesses de la passion qui leur sont communiquées. Et sans faire de haute théologie sur la communion, l'union, toutes ces richesses entrent profondément dans leur âme. Et pour cela, il leur suffit d'avoir confiance dans l'enseignement de Jésus-Christ, ces signes sont suffisamment éloquents pour vous montrer les réalités divines qui sont cachées aux yeux des faux sages, qui sont révélées aux yeux des simples, ça c'est l'Écriture sainte, c'est Jésus qui le dit, et qu'il a fait exprès d'ailleurs de cacher aux yeux des faux sages. Il suffit de croire à ces réalités pour entrer dans le mystère de Dieu. C'est absolument merveilleux. Il suffit pour cela de croire. Si je vous ai fait ce sermon, c'est d'abord pour que vous commenciez à voir clair, et puis nous allons faire des sermons suivants, l'un sur la présence réelle, le deuxième sur notre Seigneur en croix, dans l'Eucharistie, signifié dans l'Eucharistie, le troisième sur les richesses données, la réalité communiquée par Jésus-Christ. Nous allons faire donc des sermons qui vont entrer dans tous ces détails. Mais déjà, je voulais que vous voyiez clair. Et puis surtout, je voulais que vous soyez rassurés. Avec ce que je viens de vous dire, vous avez largement de quoi nourrir profondément votre vie chrétienne, intérieure et même extérieure. Et en cette période de confinement, c'est très important. Demandez à la Sainte Vierge une fois de plus, parce qu'on ne peut pas vouloir profiter de l'Eucharistie sans passer par la Sainte Vierge. Parce que c'est elle qui nous a donné le corps de Jésus-Christ au moment de la naissance du Christ, et à cause de cela, c'est à elle que le Christ a confié le soin de préparer les âmes à recevoir son corps une deuxième fois dans la Sainte Eucharistie. De même que c'est à elle qu'il a confié de les mener jusqu'au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.